Cours de métaphysique par le père Philippe Assingetard, le 4 octobre 1990.
Faut pas vous affoler, hein, quand je vous ai montré toutes les diverses orientations que nous devions prendre, les différentes. C'est une carte Michelin. Pour la philosophie. Alors, on a le temps. Mais je crois que c'est bon de voir que de fait, il y a tous ces chemins qui mènent au même problème. Comme nous le verrons, la philosophie étudie ce qu'est l'homme et la théologie, le mystère de Dieu. Et comme l'homme est fait pour Dieu, la philosophie, dans son sommet, rejoint Dieu. Et comme Dieu a créé l'homme, Dieu rejoint l'homme. Et c'est perpétuellement cette grande montée vers Dieu et cette grande descente vers l'homme. Le théologien descend vers l'homme et le philosophe monte vers Dieu. Ça qui est très curieux. C'est dans ce sens-là que lorsque il n'y a plus la philosophie, on ne comprend plus assez cette soif de découvrir Dieu. Mais le croyant s'habitue à Dieu, sacristain de la parole de Dieu. Le philosophe maintient en lui cette soif de dépassement constant. La grâce ne supprime pas la nature, mais elle a besoin de la nature. La foi ne détruit pas la philosophie, et elle a besoin de la philosophie. Si je prends la philosophie au très grand sens, ce que nous essayons, ce que nous allons voir progressivement, alors je vous disais hier, essayez de découvrir la naissance de la métaphysique, de la philosophie première. Alors, Socrate, qui est aussi, et comme nous le verrons, le père de l'éthique, Platon et Aristote. La philosophie première, dans son expression du reste de philosophie première, est propre à Aristote. Alors Aristote, comme du reste les Grecs, il ne nous donne pas l'itinéraire. C'est ça qui est très curieux. Ce sont des chercheurs. Ils nous donnent le résultat. Mais on sent très bien qu'ils sont des chercheurs. Mais ils ne nous disent pas comment ils sont arrivés à la philosophie première. Aristote dit, il y a une philosophie première. Il y a ça, en fait. Aujourd'hui, on dirait, j'ai eu beaucoup de peine, je me suis heurté devant telle difficulté, et j'ai vu qu'il fallait découvrir. Tandis qu'Aristote donne le fait. Il y a une philosophie première qui est la philosophie. Alors, c'est ça que nous allons regardez ensemble une philosophie qui est la philosophie de ce qui est le Toon et On. Je traduis. En latin, c'est déjà plus facile. Ens in quantum. Ens. Alors ceux qui savent ni le latin ni le grec, ce qui est de plus en plus commun, traduit en français, traduit dans toutes les langues. Il faudrait faire ça. Donc ici, parce que c'est intéressant. Alors, ce qui est, parce que ens, pour saint Thomas, quod est. Donc, ce qui est, en tant content qu'il est. Ce qui est en tant que ce qui est. Donc en tant qu'il est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant de voir ça. Parce que ça, il faut progressivement comprendre ce que ça veut dire. To on et on, ens il quantum ens, ce qui est en tant qu'il est. Aristote est le premier qui va comprendre que notre intelligence n'est pas un miroir qui reflète la réalité. Garodi, qui est un moderne, non pas un grec. Garodi, marxiste, dit que le propre de l'intelligence, c'est de refléter la réalité. Quand vous allez à Paray-le-Monial, vous traversez la petite rivière et vous voyez la cathédrale qui se reflète dans l'eau. Et ce petit fleuve, cette petite rivière, est le miroir de la cathédrale, de la basilique. On a tous vu cela, ce phénomène. À certains moments, quand l'eau est particulièrement limpide, il y a un reflet. C'est très beau. Tout est à l'envers. Quand vous regardez dans une glace, c'est pas défendu, si vous en faites la philosophie. Pas pour voir, ah, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis mal. Non, non, ça n'a pas d'importance. Mais ce phénomène très curieux, je ne sais pas à partir de quel moment la glace a été inventée, vous me le direz. C'est intéressant. Un petit chat en face d'une glace. Un tout petit chat qui ne s'est jamais vu derrière la glace. Vous regardez ça. C'est très curieux. Il lève la patte. Puis l'autre lève la patte. En même temps. Cette espèce de dédoublement. Vous voyez? Ce phénomène de dédoublement. C'est très très curieux. Alors, il y a toute une perspective d'une intelligence miroir du réel. Qui reflète. Aristote comprend que l'intelligence transforme le réel dès qu'elle le connaît. C'est déjà énorme, ça. Parce qu'Aristote dit que la très grosse difficulté qu'on a, et on le verra du reste en philosophie, c'est de passer de la représentation à la signification. On se représente les choses. Le miroir, c'est de l'ordre de la représentation. Si l'intelligence est le reflet du réel, l'intelligence ne fait que représenter. Elle représente. Aristote saisit. Il ne dit pas comment. Il dit simplement, faut passer de la fantasia, l'imagination. On se représente. L'intelligence qui saisit, qui assimile, qui discerne. Et en discernant, en saisissant, elle signifie la réalité. Donc, ça, nous y reviendrons, hein. Je dis ça parce que c'est très important pour saisir ce qu'Aristote appelle ce fait qu'une même réalité peut être regardée de diverses façons. Si l'intelligence était simplement un miroir, ah ben je sais bien, il y a des miroirs grossissants et des miroirs amaigrissants, n'est-ce pas? Il faut toujours avoir chez soi un miroir grossissant, ça te met dans l'euphorie. Tandis qu'au contraire, si vous avez un miroir amaigrissant, ça veut dire, oh, quel tas de juifs aujourd'hui. Non, ça va bien, c'est merveilleux. Puis vous pouvez mettre des couleurs différentes. Dans les chutes du Niagara, on met des couleurs différentes. Alors il y a des bleu, des jutes roses, des jutes rouges. C'est très vrai. Il y a des miroirs qui peuvent être roses. Vous voyez tout rose. La rose. Donc c'est euphorique. Rien ne va, il y a la rose. Donc c'est euphorique. Et on continue, c'est euphorique. C'est très amusant, ça. De voir que de fait, l'intelligence passe d'une image qui est un reflet de la réalité. Alors pour nous, la photographie. Est-ce que l'intelligence est une photo, c'est un appareil de photographie? Pas du tout. La photographie reflète. Et la photographie en couleur, ça reflète. L'intelligence peut regarder une même réalité sous des points de vue différents. Quelle est la réalité qu'on regarde le plus? C'est l'homme et l'univers. Et c'est pour ça que très très vite, vous aurez deux pôles en philosophie. Et en philosophie grecque, on le voit tout de suite. Le philosophe qui regarde l'univers, le philosophe qui regarde l'homme. Le philosophe qui regarde l'univers, vous verrez, c'est ce qu'on a appelé, avant Aristote, chez les présocratiques, l'école de Milet. Il reste rien en Grèce. Il reste rien, je veux dire, oui. En Asie mineure, il reste rien du tout de Milet. Quand vous êtes à Éphèse, vous voyez simplement un poteau indicateur, Milet. Ça vous fait un petit coup au cœur. Milet, c'est là le point de départ de la philosophie. Mais des philosophes qui regardent l'origine du monde. La philosophie a commencé par l'origine du monde. D'où ça vient? Qu'est-ce qu'il y a de premier dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de premier? Oui, c'est les mêmes questions d'aujourd'hui. Le Big Bang. Qu'est-ce qui est au point de départ? Et puis, les pythagoriciens, les spirituels, ils vivent en petite fraternité. Ils sont les premiers religieux. Ils vivent en petite fraternité. Ils regardent l'homme en disant, quelle est la destinée de l'homme? Ce pourquoi l'homme existe. Et alors, on fait une philosophie en réfléchissant sur l'homme. Mais ça, c'est très important de voir que, de fait, il y a deux aspects importants. L'univers. De fait, vous avez là les deux points de départ de toute la philosophie. L'univers, on regarde le tout. L'homme, c'est encore un tout, mais très différent. L'univers, c'est l'expérience à partir des sensations. L'homme, c'est l'expérience intérieure. Nous avons là deux points de départ constants de la philosophie. On y reviendra pour comprendre quel est le point de départ de la philosophie. Mais je vous le dis tout de suite, il y a de fait ces deux aspects, historiquement. Si nous regardons maintenant, hein, historiquement, comment est née la métaphysique. C'est à partir de là qu'il y aura deux écoles en Grèce. Les physiciens, qu'on appelle les physiciens, ceux qui regardent l'univers. Milet, Anaximandre, Anaximène, les physiciens. Ce qu'Aristote appelle les physiciens. Et puis, les autres, les pythagoriciens, ils vont conduire à une école plus intérieure, plus spirituelle. Parce qu'on va regarder l'homme dans sa destinée d'homme. Vous comprenez? D'un côté, on est en présence du monde physique. De l'autre côté, on est tout de suite en présence de l'esprit, de l'âme religieuse. C'est intéressant parce que ça fait tout de suite comprendre que dans l'homme, dans chacun d'entre nous, il y a les deux aspects. On est dans l'univers par notre corps. On est au-dessus de l'univers par notre âme. Il y a les deux aspects. Et nous portons en nous ces deux choses. Le premier qui arrive à dépasser cette dualité, c'est Aristote. Parce que Platon demeure dans la dualité. Et Socrate ne regarde que le point de vue intérieur. Socrate, c'est un homme de l'intériorité. Connais-toi toi-même. Enfin, fameux cantique. À quoi sert de gagner l'univers si on perd son âme? Ça, c'est Socrate, ça. À quoi sert de gagner l'univers, de devenir roi, si vous perdez votre âme? Chantez ça à Mitterrand. À quoi sert de gagner l'univers, d'être roi de France, à sa manière, si vous perdez votre âme? C'est très simple, c'est la réalité concrète. Ça, c'est Socrate. Platon, hein, au début, il est tout à fait avec Socrate. Et puis, hein, ça remonte, ça remonte. Quand on a du sang de roi dans les veines, je ne sais pas si Mitterrand en a, mais c'est quand on a du sang de roi dans les veines, ça repousse. Ça repousse. Il veut être roi. Et Platon, c'est très simple, le problème du monde physique, ah, le monde physique, il l'efface. Le monde physique, c'est la relativité. Ça n'intéresse pas le philosophe. Le corps, pfft. La seule chose qui intéresse Platon, c'est l'âme. Philosophie de l'âme. Philosophie de l'intériorité. Là, il suit Socrate. Mais la différence, c'est que dans cette intériorité, et à partir de cette intériorité, il découvre la dialectique. Il y a une dialectique de l'âme, il y a une dialectique de la foi. Et Platon, c'est la dialectique de l'âme. C'est à l'intérieur des idées de l'âme. Il découvre cela. Et pour lui, la philosophie, c'est la dialectique. Dialogos. Vous voyez, c'est que dans l'intériorité, dans l'immanence de la réflexion, vous pouvez découvrir de plus en plus la perfection de l'âme. Aristote va dépasser cette dualité en montrant que l'homme a une unité. C'est vrai, je suis âme et corps. Mais mon corps, c'est moi. Et mon âme, c'est moi. Et pour maintenir cette unité, il faut comprendre que la vie de l'esprit qui est en moi dépend, alors il va préciser ensuite comment, de mes sensations, de mon corps. Il y a une dépendance entre les deux. Et parce qu'il y a cette dépendance entre les deux, il va montrer que de fait, dans la connaissance, il y a différents niveaux. C'est le premier qui distingue ces niveaux. Une même réalité peut être connue de diverses manières. Une même réalité. Je peux connaître l'homme, puisque c'est l'homme en réalité qui intéresse toujours le philosophe. Je peux connaître l'homme en tant qu'il est partie de l'univers. Donc l'homme en tant qu'il est mu. Ce qui est mu. L'homme dans le monde physique. Je peux connaître l'homme en tant qu'il se meut, le vivant. Puis je peux aller plus loin. Je peux connaître l'homme en tant qu'il est. Et voilà les trois dimensions de fait que Aristote précise. C'est une invention énorme. De voir que l'intelligence humaine peut atteindre la même réalité sous des aspects différents. Toutes les confusions proviennent de là. C'est qu'on ne voit pas suffisamment que la même réalité, l'homme, peut être vue diversement. Et non seulement il y a ces trois dimensions, mais Aristote précise qu'avant ces trois dimensions, l'homme peut se connaître par lui-même, dans son intériorité, dans son activité propre. Il y en aura donc, à partir de là, la philosophie pratique, la philosophie humaine. C'est comme ça qu'il l'emploie. Et cette philosophie humaine regarde à la suite de Socrate l'activité volontaire. Il y a du volontaire et de l'involontaire dans l'homme. C'est pas si mal, hein? Première fois, on distingue le volontaire et l'involontaire. Mais ça, c'était le problème de Freud. Il y a de l'involontaire. Comment se fait-il que de temps en temps, vous avez des actes manqués? Le premier qui découpe ça, volontaire et involontaire. Socrate avait déjà découvert d'une certaine manière, mais pas de la même façon, parce que pour Socrate, tout provient de l'ignorance. Pour Aristote, non, il y a de l'involontaire. Alors, c'est tout son problème d'éthique. Et Aristote avait découvert qu'avant l'éthique, il y a l'activité artistique. La poétique. L'homme est capable de réaliser une œuvre. Et l'activité artistique est quelque chose de tout à fait premier dans l'activité humaine. C'est tout à fait premier. Et ce qui est très curieux, dans la philosophie d'Aristote, cette activité artistique, elle est première génétiquement. L'homme commence à jouer, le gosse, hein, l'école maternelle, il joue. Et on voudrait que tout soit un jeu, de temps en temps. Il y a comme ça des méthodes d'éducation, où on apprend tout par le jeu. Il faut qu'il découvre tout lui-même, il ne faut surtout pas qu'intervienne un autre. La méthode Montessori. Vous savez, quand on veut que l'homme redécouvre tout par lui-même, c'est le point de vue artistique qui devient premier. Alors, il distingue l'activité artistique, la poétique, l'activité volontaire et l'activité politique. À l'intérieur de l'éthique, prolongeant l'éthique. Aristote sera le premier à discerner que la philosophie recherche de l'homme implique ces domaines différents. Vous avez premièrement une réflexion sur vos activités, un examen de conscience philosophique. Quand vous écoutez un cours, avant le petit déjeuner, quand vous écoutez un cours, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ici par obéissance. Donc, activité morale. Vous obéissez. Vous êtes ici, non pas pour continuer à dormir, mais vous êtes ici pour être attentif au cours. Éveillé. Activité morale. Un acte volontaire. Je veux écouter. Je veux entendre. Je veux comprendre. Votre intelligence, puisque c'est l'intelligence qu'on éduque en philosophe, votre intelligence va s'éveiller. L'intelligence, c'est plus du volontaire. Je veux comprendre et je comprends rien. Puis tout d'un coup, ah, c'est ça. Mais il y a un éveil à l'intérieur du volontaire. Il y a un éveil d'une autre dimension, de l'intelligence. Puis cette intelligence, elle s'éveille à partir d'une quantité d'images et à partir d'une attention. Et dans cet éveil de l'intelligence, je vais distinguer ces différentes expériences. Ce qui est mu, ce qui se meut, ce qui est. Donc, pour Aristote, puisque c'est le premier qui découvre une philosophie première, qui est au sommet pour lui, qui est l'activité la plus noble de l'intelligence. Pourquoi? Parce que cette activité va pouvoir, de fait, découvrir dans l'homme ce qu'est l'intelligence. Et le terme de la recherche de l'intelligence, qui sera l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu. La philosophie première a cette noblesse, c'est pour ça qu'il l'appelle première. Alors voyez tout de suite les équivoques, hein. C'est très bien de découvrir ça, mais il y a tout de suite des équivoques terribles. C'est ça qui est intéressant à voir aussi. Parce que les équivoques, vous comprenez, c'est les confusions. Philosophie première. Alors on va distinguer le premier génétique et le premier dans l'ordre de perfection. Cette distinction est capitale. Elle est propre à Aristote. Alors, quand je dis philosophie première, est-ce le premier génétique? Est-ce le premier en perfection? Ça, c'est facile à comprendre, le premier d'ordre génétique. Qu'est-ce qui a été premier? Oui, la psychologie, la psychanalyse, recherche le premier nœud. Quelle est la première fois où vous avez été de mauvaise humeur? Dans le passé. Réfléchissez bien, parce que cette première mauvaise humeur, elle revient. Elle revient. Il y a une continuité dans notre vie de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui est premier? Quel est le premier moment où vous êtes de mauvaise humeur? C'est sans doute quand vous avez eu faim, soif, et que vous avez crié, et que le biberon n'était pas prêt. Ou que la mère, ah non, non, on nous a éduqués, l'enfant doit manger à telle heure, à telle heure, à telle heure. Oui, il y a une espèce de montre qui n'est pas du tout l'instinct. Il y a une différence entre la montre et l'instinct. On vous dit de vous coucher à telle heure, et vous êtes fatigué avant. Ah, j'ai envie de me coucher, ah non, telle heure. Hein, comme c'est curieux ce truc-là. Il y a eu tout de suite une inadéquation entre l'heure, c'est pour les grandes personnes quand même, quoi. C'est pour les gens cultivés, l'heure. Vous savez bien. Les premiers Africains qui arrivent en France, c'est curieux, les Européens, ils regardent leur montre pour savoir s'ils ont faim. C'est curieux, ça. Ils regardent leur montre pour savoir s'ils ont faim. C'est exactement ça. La mère dit Adam, à telle heure. Mais le gosse ne peut pas comprendre, il a faim. Alors, il crie. Si la mère est astucieuse, elle prend un petit jouet, puis elle l'assume. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un refoulement. Il y a un premier refoulement, c'est évident. Son instinct de boire le lait maternel lorsqu'il tète, ou de prendre le biberon, il y a un transfert. Il entend quelque chose. Ça l'intéresse. C'est très curieux. On a tous vu ça. C'est palpitant de regarder ça au point de vue. Passage d'un appel instinctif à quelque chose d'extérieur qui fait que momentanément, ça ne dure pas très longtemps, plus ou moins l'éveil, vous êtes arrivé à dévier un instinct pour quelque chose d'autre. Alors, il y a un refoulement. Votre première mauvaise humeur, voyez d'où elle vient. Refoulement du lait maternel. C'est extraordinaire, ça. Et ce refoulement va conditionner toutes vos mauvaises humeurs. Même encore maintenant. Parce que le conditionnement qui est commandé par le premier refoulement, des massifs, conditionnement. Sauf si vous l'avez complètement assumé. Alors vous n'êtes plus jamais de mauvaise humeur. Davicia, prendre conscience de toutes les mauvaises humeurs, surtout par rapport au Saint-Esprit. Les maternels, l'Esprit Saint, vous voyez, c'est toujours très maternel. Je veux faire oraison. Donnez-moi des petites grâces de consolation. Pas du tout. Vous devez subir encore l'horloge. 7 heures. Ah, on tape enfin terminé. Cocasse, hein, comme l'homme est curieux. Ce serait si simple de suivre son instinct. Tellement plus simple. L'homme civilisé, c'est un drôle de bonhomme. Très curieux. Voyez, alors le premier génétique et le premier d'ordre perfection. Et entre deux, il y a l'horloge. C'est vrai, il y a un ordre factice par rapport aux petits individus. L'animal n'a pas ça. Sauf l'animal domestique. Et c'est pour ça que l'animal domestique aura des refoulements très particuliers, mais il y en aura. Parce qu'il a été domestiqué. Et alors il y a eu l'ordre qui est venu, factice. Et l'ordre, le premier génétique, au plan philosophique, quel est le premier réveil génétique? Je crois que c'est le point de vue du Fatschere. L'homme qui fait quelque chose, la réalisation. Et puis le premier en perfection, philosophie première. La philosophie première n'est pas première génétiquement. Elle est première dans l'ordre de perfection. Voyez. C'est pour ça qu'on va l'appeler très vite. Et ça, c'est les bibliothécaires. Ils vont l'appeler métaphysique. C'est-à-dire après. La philosophie première est toujours après. Méta. Ce qui vient après. Ce qui vient en dernier lieu. Après la philosophie première, il n'y aura plus que la théologie naturelle. Mais la théologie naturelle, nous le verrons, a ceci très particulier, c'est qu'elle ne repose pas sur une expérience. Alors que toutes les autres parties de la philosophie, vous voyez, les 6 parties de la philosophie, au moins les 5, reposent sur une expérience. L'expérience de ce qui est mu, l'expérience de ce qui se meut, l'expérience du fatcheré, de la réalisation. Je joue au cube. Je joue au petit train, aux automobiles mécaniques. C'est ça le jeu de l'enfant aujourd'hui. Avant, c'était les cubes. La petite fille, c'est la poupée. C'est curieux. Tout de suite, discernement entre les deux. Le jeu. Le jeu, c'est ça le jeu. Hein. Le jeu est dans du faturé. On apprend l'enfant à jouer pour développer une connaissance de relation. Une connaissance symbolique. L'enfant commence par des connaissances symboliques. Le jeu est toujours symbolique. Toujours. On invente une quantité de relations. C'est très visible dans le jeu des cubes. On met un cube, 2, 3, 4, ça monte. Et puis tout d'un coup, patatras, ça dégringole. On dit pourquoi ça dégringole? On recommence. Puis on monte un peu plus. Oui. C'est une symbolique des jeux, des relations. Cette première connaissance par où, de fait, l'enfant se développe. Alors ça, c'est le premier génétique. Et puis il y a le premier dans l'ordre de perfection. Ce qu'on monte. Quand on atteint le sommet, et la tour Eiffel, c'est un jeu extraordinaire de relations. Extraordinaire. C'est le jeu de cube. Des enfants un peu plus évolués. Quand ils sont arrivés à faire la tour Eiffel. Chef d'œuvre de Paris. Plus haut. Ce qui se connaît dans le sommet. Il y en a d'autres qui disent non, c'est Notre-Dame. Un autre chef d'œuvre. Le jeu de cube est un peu plus développé. un peu plus développé. On mettra un lieu où on pourra manger, parce qu'on sera au sommet. On mangera mieux quand on sera plus haut. Tandis que de l'autre côté, on pourra prier. Voyez, c'est très curieux, tout de suite, la relation de l'art et de la gérée. Qui se sont très liés. Ça, on le verra. Bon. Alors, vous voyez comment on appelle philosophie première. C'est-à-dire la philosophie du sommet. Et cette philosophie du sommet, c'est en même temps celle qui touche ce qu'il y a de plus radical. Philosophie de ce qui est. En tant qu'il est. Alors, regardez-vous du point de vue de l'être. Vous n'êtes pas grand-chose. Mais comment, en philosophie première, l'homme... Oui, il existe. Il existe. Mais il est commun avec tous les autres. L'œcuménisme le plus parfait, philosophique, c'est la philosophie de ce qui est. La vache existe. L'arbre existe. L'herbe existe. Le caillou existe. La terre existe. Tout, tout, tout. Tout est. Donc, c'est de fait la philosophie qui va toucher ce qu'il y a de plus radical dans toutes les réalités, ce qui est. Fallait l'inventer, vous savez. C'est pas si commode que ça. Nous nous répétons. On essaie de bien répéter, de répéter avec intelligence. Mais découvrir que l'intelligence est faite radicalement pour poser le jugement d'existence. Ceci est. C'est ça qui permet la découverte de cette philosophie première. Que le jugement d'existence de l'intelligence, qui est le jugement le plus commun, le plus primitif, le plus simple, est d'une certaine manière au-delà de toute expérience. C'est une méta-expérience. D'expérience contient ce jugement d'existence. Quand vous dites ceci est mu, si ceci est mu, il est. Ceci se meut, il est. L'homme agit, il est. Oui, on verra Descartes. Quand Descartes dit cogito ergo sum. Il découvre que dans la pensée, il y a sub, je suis. Donc il y a l'être. Dans toutes les diverses expériences, mon activité artistique, l'œuvre, elle existe. L'activité volontaire, elle existe. L'activité politique, elle existe. C'est l'homme qui agit. C'est l'homme qui est et qui agit. Au-delà de toutes les expériences, il y a une méta-expérience qui n'est plus une expérience, qui est le jugement d'existence. Ceci est. Fallait découvrir ça. De fait, Platon ne l'a pas découvert. Pour Platon, l'être, ce qui est, n'est pas ce qui est ultime. C'est très très curieux ça. Qu'est-ce qui est ultime pour Platon? Ce qui est ultime pour Platon, c'est l'un et la bonté. Au-delà de l'être, c'est l'un et la bonté. Alors il faudra se comprendre pourquoi. Faut toujours, puisque si on suit Aristote, si on s'arrête à Aristote, c'est qu'on considère qu'Aristote touche une vérité plus fondamentale que Platon. Parce qu'autrement, je serais avec Platon, je dirais la philosophie première, c'est la philosophie de l'âme. C'est la philosophie du bien. Et beaucoup, beaucoup le disent, encore maintenant. Beaucoup n'aiment pas Aristote. Ils ont une horreur d'Aristote. Pourquoi? Pour beaucoup, c'est parce que Aristote a été pris par Saint-Thomas. Annexé par Saint-Thomas. Elle dit, ah, ça, c'est religieux, c'est catholique. Aristote, c'est catholique. On lui a mis un vêtement catholique. Platon, c'est aussi catholique. Puisque Platon, c'est Augustin. C'est Augustin, Platon. Mais Augustin est plus large que Saint-Thomas. Saint-Thomas, c'est une rigueur. Difficile. Pénible. Il formalise tout. Tandis que Augustin, c'est un rhéteur. C'est merveilleux, un rhéteur. Moi, c'est un poète. Alors ça, c'est Platon. Platon, il rêve. C'est plus agréable. On aime mieux d'être avec le rêveur. Aristote, la rigueur de ce qui est. On aime mieux être mesuré par le beau et le bien, et même l'un, que par l'être. Pourquoi ça? Pourquoi y a-t-il ça? Pourquoi y a-t-il cette lutte permanente au plan philosophique entre Platon et Aristote? Ça, c'est les origines de notre civilisation. L'origine de la civilisation, c'est pas moi qui le dis. Prenez, c'est intéressant de voir ça. Prenez ce que Merleau-Ponty, donc un philosophe, il est déjà mort, mais il est tout proche de nous. Merleau-Ponty a voulu ponctuer notre philosophie actuelle. Il a mis l'Inde, la Grèce, l'Inde. C'est les fondateurs. La Grèce, la source. Toute notre culture est grecque. C'est vrai. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les Grecs. Et la Grèce a assumé l'Inde. Tandis que l'Inde n'a pas assumé la Grèce. Ça aussi, c'est un problème. Pourquoi l'Inde n'a-t-elle pas assumé la Grèce? Et pourquoi la Grèce a-t-elle assumé l'Inde? En Platon, elle assumait l'Inde. Alors on est de plus en plus d'accord là-dessus. La distinction de l'âme et du corps, comme nous le verrons, n'est pas une distinction grecque. C'est une distinction qui provient de l'Inde. Parce que c'est une distinction qui est proprement selon les traditions religieuses. Elle n'est pas philosophique. Elle sera philosophique. Mais premièrement, elle est de l'Inde. Alors vous voyez, le philosophe va être très exigeant là-dessus. Parce que le philosophe va toujours chercher ce qui est premier. Ce qui est premier dans l'ordre génétique. Ce qui est premier dans l'ordre de perfection. Voilà ce qu'Aristote apporte. En premier lieu, toute sa philosophie commandée par ça. Et ça, c'est très intéressant parce que cette petite phrase d'Aristote que saint Thomas répète, le propre du sage. Mettez ça en premier lieu. Le propre du sage est ordonné. Ce que la petite Marthe aimait beaucoup. Elle disait ça. Ça m'amusait, moi. Le père Philippe, il ordonne tout. Il distingue et il ordonne. Au plan philosophique, le propre du sage, c'est d'ordonner. Pour ordonner, il faut saisir ce qui est premier. Le principe. Le principe, c'est ce qui est premier. Dans un ordre donné. Il faut toujours saisir le premier. Tant que je ne suis pas remonté au premier, je n'ai pas découvert la source. Et tant que je n'ai pas découvert la source, je ne connais pas. Alors, il faut découvrir le premier génétique. C'est ce que fait Freud, remarquez. À sa manière. C'est pour ça que Freud est un sage. À sa manière. Je dis, il y a des confusions qu'il a maintenues. C'est pour ça qu'en réalité, il n'a pas saisi le premier. Mais son intention, c'est de saisir le premier. Quel premier refoulement? Quel premier refoulement? Quand il dit que l'homme est un génétiquement parlant, premier foulement. Et puis, le premier dans l'ordre de perfection, ah ça, il ne l'a pas regardé du tout. Et le premier dans l'ordre de perfection, ce sera de découvrir la finalité. La fin. Ce pourquoi je suis fait.